Une fois, bienvenue à tous. Une façon très spéciale si vous nous visitez pour la première fois ce matin. Alors, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de notre Église. Ou si vous nous visitez d'une façon un peu ponctuelle comme ça ce matin, bien, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Si vous venez d'une autre Église ou si vous êtes avec la famille, bien, ça nous fait plaisir. Puis, je souhaite que vous allez être bénis ce matin et que vous l'avez déjà été et que vous allez continuer à l'être. Alors, comme vous avez pu remarquer, comme Église, comme chrétien, en tout cas ce matin, on célèbre aujourd'hui la fête de Pâques, la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Pour vous ou pour les gens autour de nous, qu'est-ce que c'est Pâques? Peut-être ce à quoi vous pensez le plus, c'est 2 jours de congé, ou c'est 1 jour de congé, ou c'est recevoir du chocolat, ou c'est devoir acheter du chocolat. Mais la fête de Pâques, pour nous comme chrétiens, et originalement la raison pour laquelle ça existe, c'est beaucoup plus que du chocolat. C'est le jour de Pâques qu'on célèbre, c'est un événement qui s'est produit il y a près de 2000 ans. Un jour qui a tout changé. Un jour qui a tout changé pour les disciples qui avaient côtoyé Jésus, et un jour qui a tout changé pour tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ. Alors, dans le calendrier annuel, Pâques est probablement la plus belle et la plus grande fête qui soit. Parce qu'on célèbre qu'il y a près de 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, triomphant de nos plus grands ennemis. On peut avoir l'impression, on peut avoir des idées qui sont nos ennemis. On peut penser que c'est nos parents, c'est nos enfants, c'est nos patrons, nos collègues, ou certains d'entre eux, ou... C'est la société, c'est le système qui est problématique, ou c'est les politiciens, ou c'est une certaine mentalité ou une idéologie. C'est ça qui est notre plus grand ennemi, puis c'est ça qu'on doit combattre. Eh bien, je pense que la Bible a quelque chose de plus pénétrant à nous dire à propos de c'est qui notre plus grand ennemi. Et il se manifeste de différentes façons. Premièrement, dans le péché, qui est dans chacun de nous, on va en parler un peu. La mort, qui est le grand inconnu, et le diable, dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais qui fait partie de cette liste de nos grands ennemis. Alors, j'ai appelé le message de ce matin « Le jour qui a tout changé », parce qu'il y a un jour qui a tout changé, qui s'est passé. Ça fait un petit bout de temps, ça fait bientôt 2000 ans, mais c'est un jour qui a tout changé pour ma vie, pour plusieurs d'entre nous aussi, qu'on peut dire, c'est le jour qui a tout changé. Ou on peut avoir un moment où on a cru en ça, dans la résurrection de Jésus, que c'est le jour qui a changé nos vies complètement. Dimanche passé, ici à l'église, nous avons parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où les gens l'acclamaient en roi, mais ça n'a pas pris longtemps qu'ensuite il a été arrêté, injustement, qui a été faussement condamné à un tribunal illégal, qui a été condamné à mort par un gouverneur qui a préféré garder sa position que d'appliquer la justice. Crucifié par les soldats romains, mis à mort de façon la torture la plus extrême qui existait à l'époque par les Romains. Dans l'évangile de Jean qu'on va regarder, l'Évangile selon Jean, Jean était un des disciples de Jésus, un des 12 qui a passé sa vie avec Jésus, qui a passé, on estime, environ 3 ans avec Jésus à le suivre, à l'entendre enseigner, à le voir faire des miracles. Et Jean a écrit le récit de la vie de Jésus, c'est un des 4 évangiles qu'on trouve dans la Bible, le 4e. On appelle l'Évangile selon Jean. Et l'Évangile selon Jean fait 21 chapitres. L'entrée à Jérusalem qu'on a vue la semaine passée, dans Luc, mais dans Jean se situe au chapitre 12. Donc, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 21, tout ça, ça se passe dans à peu près la dernière semaine de vie de Jésus. Donc, il y a un accent vraiment particulier qui est mis dans l'Évangile de Jean et dans tous les évangiles sur cette dernière semaine de la vie de Jésus, sur le point culminant de sa vie. Les évangiles mettent en relief le fait que la crucifixion de Jésus qu'on a chanté n'était pas un accident tragique d'un grand enseignant qui s'est fait prendre dans une mauvaise posture, mais qui en fait était l'accomplissement de sa mission ici sur Terre. Il y a 2 jours, d'ailleurs, on célébrait le Vendredi Saint. Plusieurs d'entre nous étions à l'église baptiste évangélique de Rosemont, qui est notre église mère, l'église qui nous a envoyés ici pour débuter cette église à Saint-Léonard. Et on s'est souvenu d'une façon spécifique les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Cependant, la mort de Jésus n'est pas la fin de l'histoire. Chacun des évangiles et le Nouveau Testament tout entier nous annonce clairement que Jésus n'est pas resté mort, mais qu'il est ressuscité le troisième jour. Pour les disciples de Jésus, autant ceux qui avaient marché avec lui sur la terre que pour tous ceux qui ont cru au témoignage de ses disciples par après, oui, pour celle ou celui qui aime Jésus, le jour de la résurrection est vraiment le jour qui a tout changé. J'ai choisi comme texte ce matin le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. La Bible est divisée en 2 grandes sections, l'Ancien Testament, qui fait environ les 2/3 de la Bible, puis le Nouveau Testament, qui forme environ le tiers. L'Ancien Testament annonce la venue de Jésus, puis le Nouveau parle de la venue de Jésus et du commencement de l'Église. Et il y a 4 évangélistes, 4 hommes qui ont écrit l'histoire de la vie de Jésus, chacun un peu à leur manière, certains en s'inspirant les uns des autres, sur la base des témoignages qu'ils avaient entendus, certains comme Jean, sur la base de ses propres yeux, il était lui-même témoin oculaire et il mentionne de ces choses qui se sont produites. Alors, on va lire ensemble, mais je vais lire pour vous Jean, chapitre 20. On va les lire, j'ai divisé le texte en 4 scènes. Donc, il y a différents événements qui vont se produire dans ce chapitre-là. On va les lire une scène à la fois. Mais avant de lire, on va prendre un temps pour prier, pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de la joie d'être rassemblés ici ce matin. Merci pour le fait qu'on peut se rassembler librement dans notre pays, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir lire la Bible, ta parole ensemble, pour pouvoir s'encourager les uns les autres. Au sujet du cœur de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus. Je te prie, Seigneur, alors qu'on étudie ce texte dans Jean chapitre 20, le jour qui a tout changé, on prie que tu éveilles nos yeux, Seigneur, à la vérité, que tu nous éclaires, que... Pour ceux d'entre nous qui t'appelons Sauveur, Seigneur, que tu amènes nos cœurs à l'adoration. Puis pour ceux d'entre nous, Seigneur, qui ne savent pas trop quoi faire des évangiles, ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils en croient, je te prie que tu puisses les aider à mieux comprendre, qu'ils puissent trouver des réponses à certaines de leurs questions, qui, je te prie, pourront les mener plus près de toi. Alors, Seigneur, on prie ces choses. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je commence la première scène de l'Évangile selon Jean. Je vais lire les versets 1 à 10. Juste petite mise en contexte, à ce point-ci, Jésus a été crucifié, Jésus est mort, il a été descendu de la croix, il a été placé dans un tombeau qui appartenait à un homme riche, il a été enveloppé, ils l'ont embaumé un peu, puis... Ils n'ont pas eu le temps de faire tout l'embaumage qu'ils voulaient faire parce que là, le soir approchait, c'était le jour du sabbat. Les Juifs arrêtaient de travailler à la tombée de la nuit pour le jour du sabbat pour se reposer, comme le Seigneur leur avait demandé. Et ça fait 1 jour et demi. Le vendredi soir, il s'est couché. Les Juifs comptaient les jours. Chaque jour, ça comptait. Donc, vendredi, c'est 1 jour. Samedi, c'est 1 jour. Dimanche, c'est un jour. C'est pour ça qu'on dit que c'est 3 jours plus tard que cela s'est produit. Mais notre texte de ce matin arrive le dimanche matin. Le dimanche, ou le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Fin de la première scène. Alors, notre premier personnage et celle qui va être le personnage principal de la deuxième scène aussi s'appelle Marie de Magdala. Qui est-elle? On a peu d'informations sur cette femme-là dans les évangiles. Dans Luc, chapitre 8, versets 1 et 2, il est question de Marie. Je vous lis ce texte-là. Ça dit « Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12, donc ces 12 apôtres, l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. » Et là, il mentionne « Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leur bien. » On n'a pas beaucoup d'autres informations sur cette Marie. Donc, c'est une femme de qui Jésus avait chassé 7 démons. Si vous lisez les évangiles, on voit Jésus guérir des gens. On voit des gens qui viennent avec des maladies avec lesquelles ils étaient nés aveugles, ou des infirmités, des paralytiques, des gens qui avaient des maladies depuis longtemps. Et tous ceux qui venaient avec Jésus, avec foi, étaient guéris. Jésus a guéri probablement des centaines, si pas des milliers ou des dizaines de milliers de personnes pendant son ministère. Il a aussi chassé des démons, des gens qui étaient possédés de démons, de forces démoniaques. Ce n'est pas quelque chose que je connais personnellement. Les évangiles nous en parlent. Ça pouvait être un démon, ça pouvait être... Bon, Marie qui en avait 7 ici. Il y a un homme qui possédait, il s'est dit que les démons en dedans de lui, il disait qu'il s'appelait Légion parce qu'ils étaient une Légion. Donc, il y en avait une grande quantité en lui. Donc, Jésus, lui, pas un simple homme. Sur sa parole, les démons quittaient. Et même quand Jésus s'approchait, il reconnaissait qui il était. Certains l'appelaient le Saint de Dieu. On voit aussi Jésus qui dominait les forces de la nature, Jésus qui a multiplié la nourriture, qui a multiplié les pains, les poissons, Jésus qui a marché sur l'eau, Jésus qui a parlé à la mer lors d'une grande tempête et a dit « Silence, tais-toi », et la mer et les vagues et le vent se sont calmés. Les évangiles ne nous présentent pas seulement un Jésus grand enseignant, sage, philosophe, il nous présente beaucoup plus. Un faiseur de miracles, mais qui n'attirait pas l'attention sur lui pour lui, mais qui voulait amener les gens à Dieu et qui s'est montré lui-même être Dieu venu dans la chair. Donc, on revient à cette Marie de Magdala. Certains ont pensé que c'était dans Luc 7, juste quelques versets avant ce qu'on vient de lire, il y a une femme qui est dite pécheresse, qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux. Mais on n'a pas d'association, cette femme-là, elle n'est pas nommée. Dans les autres évangiles, on voit que c'est Marie, la sœur de Marthe, qui fait quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le même épisode, un épisode différent? On n'est pas certain. Mais on n'a pas de garantie, ou il n'y a même rien qui nous force à présupposer que cette femme-là, ça serait Marie de Magdala. Et même Marie, la sœur de Marthe, n'était pas de Magdala. Elle habitait à Béthanie avec sa sœur Marthe, son frère Lazare. Mais on voit aussi que Marie de Magdala était présente lors de la crucifixion. Dans Matthieu 27, versets 55-56, il est écrit « Il y avait là des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Alors, l'Évangile selon Jean nous montre Marie qui vient au tombeau le premier jour de la semaine, le dimanche matin. Les autres évangiles nous disent qu'elle n'était pas seule, donc elle était accompagnée d'autres femmes. Marie, la mère de Jacques et Joseph, Salomé, peut-être la même que Jeanne, peut-être la même que la mère des fils de Zébédée. Les événements entourant la résurrection de Jésus ne concordent pas parfaitement entre les différents évangiles. C'est possible de faire des harmonisations pour ce qui est l'ordre des événements et les personnages, mais on ne peut pas être certain de façon précise dans quel ordre exactement toutes les choses se sont passées. C'est un petit peu comme si on avait différents événements, les évangiles nous présentent différents éléments, puis ce n'est pas évident comment les coller ensemble, comment ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas surprenant d'avoir des informations différentes dans les différents évangiles. Lorsque différentes personnes racontent une même soirée ou une même fin de semaine, par exemple, ils ne vont pas nécessairement rapporter les mêmes événements ou rapporter les mêmes paroles, ce que telle ou telle personne a dit, ou même lorsque deux personnes racontent une conversation qui a eu lieu, à moins d'avoir enregistré pour être capable de la faire rejouer, notre façon d'expliquer ce qui a été la conversation peut être différente, puis tout le monde peut dire justement de quoi il était question dans la conversation, même si on ne l'explique pas exactement avec les mêmes mots. À la cour, par exemple, devant un juge, un jury, c'est normal d'avoir des petites différences entre les témoignages. Ça ne discrédite pas les témoins. Au contraire, si les témoins utilisent exactement les mêmes mots, ça peut donner l'impression qu'il y a eu collusion. Donc, d'avoir des petites différences entre les témoignages, ça fait juste renforcer l'idée que ben, c'est différentes personnes qui racontent les événements, comment eux en ont témoigné, comment eux les ont vus. Donc, on a Marie, au début, probablement accompagnée d'autres femmes qui arrivent au tombeau et qui découvrent le tombeau vide. La pierre roulée et Jésus qui n'est plus là. Les autres évangiles nous disent qu'il y a des anges qui sont apparus, qui ont parlé aux femmes, qui leur ont dit, comme on va le chanter tantôt, « Pourquoi parmi les morts cherchez-vous le vivant? » Et ils leur disent que Jésus est ressuscité. Mais ici, dans Jean, Jean ne nous rapporte pas cet événement-là. Est-ce que Marie est allée plus tôt, toute seule? Peut-être. On ne sait pas, mais ce que le texte nous dit ici dans l'Évangile de Jean, Marie est courue chercher Simon-Pierre, qui est un petit peu de façon non officielle le chef des 12 disciples. Et elle dit au verset 2, « Elle courut chercher Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. » Qui est cet autre disciple que Jésus aimait? C'est un terme que Jean utilise dans son évangile, on se rend compte à la fin, pour parler de lui-même. Il mentionne à 4-5 reprises, il parle du disciple que Jésus aimait. Je pense que Jean avait particulièrement compris à quel point Jésus l'aimait, lui, de façon individuelle. Pas pour dire que Jésus n'aimait pas les autres, mais que lui, il savait que Jésus l'avait aimé, et l'aimait lui. C'est peut-être une façon aussi pour ne pas se... trop attirer l'attention sur lui-même dans cette histoire. Il y avait le disciple que Jésus aimait, qui était là aussi. Mais, donc, Pierre et l'autre disciple se rendent au tombeau. Ils courent les deux ensemble, mais Jean, peut-être plus jeune, ou peut-être qu'il allait s'entraîner plus souvent au gym que Pierre. En tout cas, il a plus d'endurance, puis il se rend au tombeau avant Pierre. Et il arrive, effectivement, comme Marie l'a dit, la pierre a été roulée, le tombeau est vide. Jean n'ose pas rentrer, il reste à l'extérieur. Lorsque Simon-Pierre arrive, lui, Simon rentre. Il voit les bandelettes, il voit le linge sur lequel, qui avait entouré le visage de Jésus, qui était là, soit plié, soit à l'endroit sur le banc où Jésus avait été déposé, probablement. Alors ça, c'était complètement inattendu. Les disciples avaient oublié, en fait, ce que Jésus leur avait dit, où leurs yeux étaient fermés, ils n'étaient pas capables de comprendre ce que Jésus leur avait dit. Les évangiles nous racontent qu'à de nombreuses reprises, Jésus annonce à ses disciples qu'il va être arrêté, qu'il va souffrir, qu'il va être mis à mort, et que le troisième jour, il va ressusciter. Mais presque à chaque fois, ça nous dit que les disciples ne comprirent pas. Pour quelle raison? Bien, les disciples n'attendaient pas un... Ils croyaient que Jésus était le Messie, qui était le roi promis par Dieu pour restaurer le royaume d'Israël à la gloire de David, que Israël dominerait sur les nations, que les nations viendraient à Jérusalem pour adorer l'Éternel, comme c'était promis par les prophètes. Mais en fait, ils avaient raté le fait dans les prophètes que le Messie allait devoir souffrir. Et que la façon dont il allait pouvoir racheter son peuple, ça allait être par ses souffrances et par sa mort. Et Jésus, comme il l'avait annoncé, n'était plus dans le tombeau, s'était relevé d'entre les morts. Les bandelettes qui étaient là, je lisais cette semaine certains experts qui disaient qu'avec les aromates qu'on avait mis sur Jésus, normalement c'était pas mal collant, donc ça aurait dû coller sur son corps. Le fait que c'était à côté, on ne comprenait pas pourquoi. Ou bien peut-être que s'il y a des gens qui étaient venus pour chercher le corps, pourquoi est-ce qu'ils auraient pris le temps de dérouler les bandelettes pour emporter le cadavre? Ça aurait été plus hygiénique de le laisser dans les bandelettes. Ou bien pour un coup monté. Mais qui aurait monté un coup? Qui aurait voulu faire un coup monté? C'est une des théories, une des façons qu'on cherche à expliquer comment l'Église a commencé. Certains vont dire « Ah, les disciples ont volé le corps ». C'était une des choses qui circulait à l'époque, au début de l'Église. Pourquoi les disciples auraient fait ça? Pour aller devenir riches? Non. Ils ont été pauvres. Pour avoir beaucoup de pouvoir, de contrôle? Ils ont été persécutés. On leur promettait de la souffrance, ils en ont eu. On les menaçait de mort s'ils continuaient à annoncer ce qu'ils annonçaient. Ils ont continué et ils ont été mis à mort. Il n'y a vraiment pas de raison logique pour laquelle les disciples auraient délibérément fait un coup monté et auraient gardé ce mensonge-là jusqu'à leur mort. Quel gaspillage de votre vie! De passer votre vie, le meilleur de votre jeunesse et de votre vieillesse, souffrir et mourir pour quelque chose que vous savez délibérément qui est un mensonge, ça serait complètement une folie. Puis on voit que les disciples ne s'attendaient pas. On se met un peu dans leur tête, là. Ils venaient d'acclamer Jésus qui rentrait à Jérusalem, ça fait une semaine. Ils se réjouissaient, le roi est arrivé! Wouh! Hosanna! Puis là, quelques jours après, en l'espace de quelques heures, arrêté, condamné, crucifié, exécuté, enterré. Est-ce que ça vous tenterait, vous, de faire un coup monté, d'aller voler le corps, puis « Ouh, il est ressuscité! » Pas moi. Puis on va voir que les disciples, même, avaient peur. Ils étaient enfermés, barré à clé, caché probablement, se disant peut-être qu'ils vont venir pour nous après, nous qui avons suivi Jésus. Ce qu'on voit au chapitre 9, c'est que Jean, qui entre après Pierre dans le tombeau, au verset 8, l'autre disciple qui est arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Il crut. De quoi, qu'est-ce qu'il a cru? C'est pas certain. Qu'est-ce qu'il a cru exactement? Est-ce qu'il a cru que Jésus était ressuscité, comme c'était le cas? Est-ce qu'il a cru que peut-être, il y a quelque chose de miraculeux qui venait de se passer? Peut-être que Dieu avait amené son corps au ciel, qu'il l'avait justifié, comme déclaré juste, qu'il n'était pas mort pour rien. Qu'est-ce qu'il a cru au juste? Parce que quelques versets, on va voir au début de la scène 3, Jean faisait partie de ceux qui étaient embarrés et qui se cachaient parce qu'ils avaient peur. Tandis que Pierre, lui, il n'est pas dit qu'il ait cru quoi que ce soit. Moi, je doute que j'aurais cru avec juste ça. Allons à la deuxième scène. Les versets 11 à 18. On revient avec Marie de Magdala. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Fin de la deuxième scène. Donc, on voit Marie qui pleure près du tombeau. Est-ce que les anges lui avaient déjà parlé à ce point-ci? On ne sait pas, je ne le mentionne pas. Mais elle ne croit pas du tout que Jésus est ressuscité. Loin de là, elle pense que quelqu'un est venu voler son corps. Puis, ce serait encore moins logique que les ennemis de Jésus, ceux qui voulaient qu'il soit bien mort, volent son corps. Non, ils voudraient qu'il reste là. Puis que ça soit clair qu'il est toujours bel et bien mort là. Alors, qui est-ce qui aurait pu voler le corps de Jésus? Des gens qui, je ne sais pas, allaient vouloir faire de l'argent. Mais Marie est là, elle pleure. À travers ses larmes, elle voit deux anges dans le tombeau. Est-ce qu'elle était dedans? Peut-être dehors. Elle voit les deux anges qui lui disent, ils lui posent la question. Femme, pourquoi pleures-tu? Oh, il savait pourquoi elle pleurait. Mais peut-être qu'il voulait l'encourager à sonder son cœur. À se souvenir des paroles de Jésus, des paroles des prophètes, que le Messie devait ressusciter. Elle répond, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et en disant cela, il y a quelqu'un d'autre qui s'approche. C'est Jésus, elle ne le reconnaît pas. Peut-être qu'à travers ses larmes, elle ne voyait pas bien. Ou on a l'impression que peut-être que Jésus, dans son nouveau corps de ressuscité, il était un peu différent. Mais Jésus lui pose la même question que les anges lui ont posée. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Mais il rajoute une autre question. « Qui cherches-tu? » Elle cherche le corps de Jésus. Elle pense que Jésus, c'est le jardinier. Il se situait dans un jardin, elle dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Et là, Jésus ne fait pas une longue phrase. Il ne fait que l'appeler par son nom. Il lui dit, « Marie. » Et à l'entendre prononcer son nom, elle le reconnaît. Et elle lui répond, « Maître. » Celui qui avait été son maître pendant les dernières années. Celui à qui elle avait voué sa vie, qu'elle venait de voir mourir horriblement quelques jours avant, et qui là est vivant devant elle. Imaginez le choc. Cette parole que Jésus dit en l'appelant simplement par son nom nous rappelle ce que Jésus a dit un peu plus tôt dans l'Évangile selon Jean. Il parle de lui-même comme le bon berger qui prend soin des brebis. Il dit que le gardien de la porte de l'enclos des brebis, ouvre la porte au berger et les brebis écoutent sa voix. Le berger, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Marie connaissait la voix de son maître qui allait devenir son sauveur, qui était mort pour elle. Et le berger aussi nous appelle, chacun d'entre nous. Il vous appelle par votre nom. Il vous appelle à le suivre. On voit la douceur de Jésus qui n'est pas dur envers elle, mais simplement qu'il vient prendre soin d'elle, vient prendre soin de son cœur, qu'il lui parle simplement. Marie. La foi authentique doit toujours être personnelle. Jésus a appelé Marie par son nom et il nous appelle par notre nom à le suivre. Vous savez, on ne naît pas chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne ou dans une société chrétienne ou dans une culture chrétienne qu'on est chrétien. On devient chrétien par un choix personnel qui est aussi un miracle de Dieu. Celui de se détourner de notre propre plan pour notre vie, de refuser l'autodétermination, de refuser de décider moi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Choisir de reconnaître Jésus comme celui qui a ce pouvoir-là sur ma vie. Et croire que par sa mort, il y a près de 2000 ans, et sa résurrection, nos péchés peuvent être pardonnés. Jésus dit à Marie, au verset 17, il lui dit « Ne me retiens pas ou ne me touche pas. » Pourquoi est-ce que Jésus il disait ça? La phrase qui suit l'explique. Il dit « Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Bon, peut-être que Marie lui avait déjà sauté dessus, qu'elle était en train de le serrer, qu'elle a dit « Je t'ai perdu, je ne te perdrai plus. Là, je vais te tenir, je ne te lâcherai plus. » Un peu comme une sœur qui sauterait dans les bras de son grand frère, puis qui s'accroche, puis qui dit « Ah, là, je ne te laisse plus repartir. Là, tu restes avec moi. » Peut-être qu'elle avait eu déjà le temps de faire ça, ou peut-être pas encore, peut-être qu'elle avait l'intention de faire ça. Puis Jésus, il dit « Ne me retiens pas ou ne me touche pas. » Puis il dit « Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Désormais, maintenant que Jésus est ressuscité, sa relation va être différente avec ses disciples. Jésus doit remonter vers son Père. Il le mentionnait plus tôt dans l'Évangile, pour être capable d'envoyer un autre Consolateur, le Saint-Esprit qui vient vivre chez chacun des disciples de Jésus. Et la présence de Jésus est manifeste dans nos vies par son Esprit qui vit en nous, qui nous attache à Jésus, qui nous unit à lui dans tous les aspects de sa personne. Alors, le fait que Jésus va partir vers son Père va permettre à Marie d'expérimenter quelque chose de plus puissant que d'avoir Jésus dans la chair avec elle, d'avoir l'Esprit de Jésus qui vit en elle. Et Jésus lui donne maintenant une tâche. Il lui dit, « Maintenant, va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans un livre d'un auteur que j'aime bien, dont je parle une fois de temps en temps, Tim Keller, qui est pasteur à New York d'une église presbytérienne, dans un petit livre qu'il a écrit qui s'appelle « Rencontre avec Jésus », il dit que Marie est la première chrétienne. C'est la première à avoir vu Jésus ressuscité. C'est la première que Jésus envoie pour l'annoncer aux autres. Et il y a quelque chose d'incroyable à propos de ça, du fait que ce soit une femme que Jésus apparaisse d'abord. Tim Keller mentionne dans son livre, il dit « Tous les spécialistes de la Bible et les historiens vous diront qu'à ce temps-là, dans ces sociétés patriarcales, les femmes ne pouvaient pas témoigner devant les tribunaux juifs ou romains. Leur témoignage était considéré comme peu fiable et de ce fait même inadmissible en tant que preuve. Si quelqu'un avait voulu forger de toutes pièces un récit de résurrection afin de promouvoir son mouvement, il n'aurait jamais, au grand jamais, choisi de faire une femme son premier témoin oculaire. Or, dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les premiers témoins oculaires de la résurrection sont des femmes. La seule réponse plausible, dit Keller, d'un point de vue historique, à la question de savoir pourquoi elles apparaissent dans ces récits, pourquoi les hommes qui les ont composés les y ont intégrés, sachant le peu de crédit prêté à leur témoignage, c'est que cela doit s'être passé ainsi. Marie doit avoir été là. Elle doit être la première à avoir vu Jésus ressuscité. Il n'y a pas d'autre motif ou raison pour l'auteur de dire que tel était le cas. Jésus a renversé en quelque sorte les rôles d'hommes et de femmes de l'Antiquité. Dans une société où une femme ne pouvait pas témoigner devant le juge, où une femme n'était pas capable de posséder un terrain sans être mariée, ou sans son père ou son fils, sans être attachée à un homme, ne pouvait évidemment pas voter, il n'y a pas grand monde qui votait non plus, participer aux décisions importantes. On voit Jésus qui se présente d'abord et avant tout à des femmes pour qu'elles soient les premières témoins de sa résurrection. L'amour, le soin et la responsabilité que Dieu accorde à des femmes est révolutionnaire. Sans les femmes, il n'y aurait pas de christianisme. Croire que Jésus ou le christianisme est misogyne est une grande erreur. Car Jésus, comme on le voit d'une façon tellement claire ici, les a comblés d'un honneur inégalé. Peut-être, ma sœur, mon amie, te sens-tu de moindre importance parce que tu es une femme? Ou peut-être que tu vis des choses difficiles, que tu te sens mis de côté, homme ou femme, parce que tu n'as pas beaucoup de fortune, parce que tu n'as pas beaucoup d'influence, que ce soit à l'école, dans ta famille, dans ton travail, à la maison. Tu te sens peut-être mis de côté, oublié ou peu considéré. Mais Jésus est celui qui vient t'appeler par ton nom. Et Jésus, comme il l'a fait pour Marie, Marie qui était une femme autrefois possédée de 7 démons, pas la grande gloire sociale. Jésus veut te combler d'un honneur inestimable aussi. N'oublie pas que Jésus fait quelque chose d'unique. Il prend plaisir à élever ceux qui sont faibles et ceux qui sont abattus pour en faire les premiers dans son royaume. Peu importe ce que tu penses de toi-même, peu importe comment tu peux te sentir petit, comment tu peux te sentir de peu d'importance, peu importe ce que le monde pense de toi, Jésus veut t'appeler à lui. Et si tu réponds à son appel, il t'appelle à entrer dans sa gloire. Et même si tu es le dernier dans ce monde, aux yeux des hommes et des femmes, des enfants de ce monde, le Seigneur a dit qu'il prend plaisir à abaisser les arrogants, ceux qui sont élevés, et à élever ceux qui sont abaissés. Alors réjouis-toi et viens répondre à la main que Jésus te tend, à son appel, à ton nom. Allons à la troisième scène, versets 19 à 23. Donc là, Marie est allée voir les disciples, est allée leur annoncer qu'elle a vu Jésus. Dans les autres évangiles, on voit les femmes qui avaient vu les anges. Je pense que dans Matthieu, ça dit aussi que Jésus leur a parlé. Donc, ils sont allés voir les disciples. Dans Luc, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils disent « Ah oui, il y a des femmes qui nous ont beaucoup surpris. Ils disent qu'ils ont vu des anges, que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. On ne sait plus quoi penser. » Alors, fidèles à des hommes de leur époque, ils n'ont pas cru le témoignage des femmes. Mais Jésus va venir corroborer leur témoignage. Il va se présenter lui-même à ses disciples. Verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées ou étaient barrées, car ils avaient peur des Juifs. Ça veut dire qu'ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. » Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors, fin de la scène 3. Les disciples verrouillés, Jésus, tout d'un coup, apparaît au milieu d'eux. De quelle façon il l'a fait? Est-ce qu'il a marché à travers un mur? Est-ce qu'il s'est téléporté? Bon, on peut spéculer, mais là, Jésus avait, dans son corps glorifié, son corps ressuscité, des capacités surnaturelles. Et Jésus apparaît auprès d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Il leur dit deux fois ici. Il va leur redire une autre fois dans la scène 4. « Que la paix soit avec vous », c'est une salutation standard chez les Juifs. Si jamais vous avez appris un petit peu d'hébreu, c'est la façon de dire bonjour, « shalom ». Donc « shalom », ça veut dire « paix ». C'est le mot hébreu pour « paix ».« Shalom », ça veut dire « que la paix soit sur toi »,« que la paix soit avec toi ». C'est un peu comme nos « bonjours ». Bonjour, en français, ça pourrait peut-être même une bénédiction. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite une bonne journée. Une journée bénie. Mais shalom avait effectivement ce sens-là. Que la paix soit avec toi. Donc Jésus les salue, mais probablement qu'il fait plus que ça ici. Les Juifs avaient peur. Ses disciples avaient peur des chefs juifs. Alors, peut-être qu'ils avaient peur de Jésus aussi. De le voir apparaître tout d'un coup, ou peut-être qu'il brillait un peu, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils avaient honte de l'avoir abandonné. Lorsque Jésus s'est fait arrêter, tous les disciples se sont enfuis. Peut-être que de voir Jésus là, ils avaient très honte et dire « Ouf, on va en manger une bonne ». Mais Jésus dit « Soyez dans la paix, que la paix soit avec vous ». Jésus les rassure, ne craignez rien de ces choses. Mais on peut voir une signification peut-être encore plus profonde. Ce que Jésus venait d'accomplir en ressuscitant d'entre les morts était de garantir la paix terrestre et surtout éternelle pour tous ceux qui se confieraient en lui. Jésus avait dit plus tôt dans cet évangile, je vous donne la paix, non pas comme le monde le donne. Il vient apporter à tous ceux qui répondent à son appel. Une paix inégalable, une paix à travers les tempêtes, une paix à travers le deuil, une paix à travers le stress de toutes sortes de circonstances qu'on peut vivre. Jésus nous appelle à lui pour nous donner sa paix. Et Jésus, apparu à ses disciples, ensuite leur montre ses mains. Et visible dans ses mains, encore, malgré qu'il... probablement qu'il avait été guéri de les coups de fouet qu'il avait reçus, la couronne d'épines sur la tête. Il restait encore des marques, les marques les plus claires de la souffrance qu'il venait de subir quelques heures auparavant. Des trous dans ses mains, puis un trou dans son côté. Les évangiles nous disent que le sabbat approchait. Les Juifs, ils voulaient que les condamnés, les crucifiés, on puisse les débarrasser rapidement parce qu'ils ne pourraient pas s'en occuper une fois que le soir serait arrivé. Donc, ils disent aux tortionnaires, aux centeniers romains, ils ont cassé les jambes des crucifiés, comme ça, ils ne seraient plus capables de respirer. Quand les gens étaient crucifiés, devaient s'appuyer sur leurs pieds pour se remonter, pour être capable de respirer. En fait, la crucifixion, on meurt par asphyxie, par noyade intérieure. Les poumons se remplissent tranquillement d'eau. Et c'est pas par la perte de sang, malgré que ça aussi, ça vient causer la faiblesse, mais c'est une forme de noyade extrêmement lente. Jésus, lui, a été crucifié 6 heures avant sa mort. Lui venait d'être battu. Il venait d'être fouetté, par contre, mais ça pouvait durer des jours. Alors, les Romains cassent les jambes des crucifiés pour qu'ils soient plus capables de respirer, pour qu'ils meurent plus vite. Mais ils arrivent à Jésus, se rendent compte qu'il est déjà mort, et pour vérifier, avec une lance, percent son côté. Je ne me rappelle plus c'est quel évangéliste qui dit qu'il y a de l'eau et du sang qui coulent en même temps, ce qui est une preuve biologique pour les Romains aujourd'hui aussi que Jésus était bel et bien mort. Depuis un certain temps. Donc, Jésus portait auprès des disciples les marques des clous dans ses mains, peut-être dans ses pieds aussi, et la marque de la lance dans son côté. Ensuite, Jésus leur dit, il s'est dit qu'il souffle sur eux, leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'était soit une forme préliminaire du don du Saint-Esprit en attendant la Pentecôte, ou bien c'était une annonce symbolique, anticipée du don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Jésus dit une phrase un peu énigmatique au verset 23, il dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Si on prend juste ce verset-là, ça peut un peu porter à confusion. Ça veut dire, est-ce que les disciples avaient dit « Toi, je te pardonne, toi, je te pardonne. Non, non, toi, tu m'énerves, toi, je te pardonne pas. » Je ne pense pas que c'est de ça qu'il est question. Jésus allait envoyer les disciples avec le message de la bonne nouvelle, avec le message de la mort, la résurrection de Jésus et le pardon possible pour nos péchés. Alors, je pense que c'est tous ceux qui vont recevoir la parole des disciples, qui vont choisir de croire en leur témoignage, de croire que Jésus était bel et bien le Messie promis, et qu'en Jésus, ils auraient le pardon de leurs péchés, mais que ceux qui refuseraient de croire en lui ne seraient pas pardonnés de leurs péchés. Il y a un appel pour nous tous qui vivons sous un certain poids de culpabilité. Bon, peut-être qu'on n'a pas commis de crime au niveau de la loi du Canada. Peut-être que vous pensez que en tout et partout, vous êtes quand même une bonne personne. En général, la plupart d'entre nous, on dirait ça. Mais il y a toutes des choses qu'on regrette. Il y a toutes des choses que si on pouvait retourner en arrière, on ferait différemment. Il y a toutes des choses qu'on sait dans notre vie qu'on a agi vraiment de façon égoïste, qu'on a été vraiment orgueilleux. Ces choses, la Bible nous dit, en fond, sont une forme de rébellion contre Dieu. Une forme de dire, « Dieu, tu peux faire ton affaire, moi, je vais faire mon affaire. » L'autodétermination, c'est se faire Dieu à la place de Dieu. Peut-être que tu me dis c'est quoi qui est bien, ce qui est mal, je vais choisir pour moi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Ou je vais essayer de faire ce qui est bien, ce qui est mal, mais je vais essayer de faire ce qui est bien, mais je ne suis pas capable. On a tous besoin d'être pardonné nos péchés. Puis la seule place où on peut le trouver, c'est auprès de Jésus. C'est ce que lui nous dit. C'est pour ça que Jésus a envoyé les disciples annoncer ce message-là, qui continue à être propagé à la grandeur du globe et qui doit continuer à avancer. Il y a encore des centaines de langues qui ne peuvent pas entendre, des centaines de cultures où il y a des langues, des gens qui parlent des langues, des centaines de langues, peut-être même des milliers, qui ne sont pas capables d'entendre l'Évangile dans leur propre langue. On doit continuer ce travail-là, chers amis, frères et sœurs. Allons dans la quatrième et dernière scène. Versets 24 à 29. Puis ensuite, il va avoir la conclusion. Thomas, appelé Didyme, ce qui veut dire le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » C'est de là qu'est née l'expression « être un Thomas », « être un sceptique ». Je veux des preuves. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et là, cette fois-là, Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Une scène assez frappante, assez puissante ici, qu'on voit. Jésus, face au doute de Thomas, ne vient pas lui taper sur la tête. Il vient lui apporter la preuve qu'il demandait. Il vient lui montrer ses mains. Il vient lui montrer son côté. Est-ce que Thomas a a eu besoin d'aller mettre ses mains dedans, aller mettre ses doigts, ses mains dans les trous de Jésus. Le texte ne le dit pas. Peut-être qu'il a quand même voulu le faire, ou peut-être que de voir Jésus ressuscité, ça a été suffisant pour lui. Mais Thomas se prosterne devant Jésus. Il lui répond probablement la déclaration de foi la plus puissante de tout l'évangile de Jean, qui en fait le point culminant de tout l'évangile. Des gens ont appelé Jésus Messie, ils l'ont appelé roi des Juifs, ils l'ont appelé maître, ils l'ont appelé Seigneur. Et on voit ici Thomas qui se probablement prosterne ou tombe à genoux, qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et suite à ça, l'apôtre Jean dit, versets 30 et 31, « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » L'apôtre Jean, celui qui a écrit cet évangile, a commencé l'histoire de la vie de Jésus en disant, en parlant de Jésus comme étant la parole de Dieu, qui existait avec Dieu. Jésus qui était une part de Dieu. Il ne dit pas dans ces termes-là, mais un des membres de la Trinité. Notre Dieu unique, une seule essence qui existe en trois personnes distinctes et infinies, qui se partagent la même essence, Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus le Fils, celui qui est venu s'incarner, celui qui est venu prendre la forme de Jésus de Nazareth, celui qui est mort, ressuscité pour nos péchés. Et Thomas a reconnu en voyant Jésus, lui qui était juif et qui savait, une des choses de base que tu apprenais comme juif, un de tes premiers versets que tu apprenais à l'école du dimanche des juifs, c'était probablement l'école du samedi, l'école du sabbat, mais c'était dans Deutéronome 6, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ça, c'est comme leur credo, c'est la base de leur confession de foi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu ne se mélange pas avec l'homme. Il y a Dieu, puis il y a le restant de la création. Mais là, Thomas vient de se rendre compte de quelque chose que tous les chrétiens croyons. Que Dieu s'est fait homme, qui est devenu un être humain pendant un temps. Il est venu il y a plus que 2000 ans, vécu pendant une trentaine d'années, dans le but de se rendre jusqu'à la croix, de mourir à notre place, et en ressuscitant des morts, triomphant de la mort. Quelques éléments de conclusion que j'aimerais offrir. D'abord, le fait que Dieu ne nous demande pas d'être niaiseux ou naïfs par rapport à la foi. La foi n'est pas seulement rationnelle. Je vais encore citer Tim Keller, le même livre, « Rencontre avec Jésus ». Il dit « La vraie foi n'est pas seulement rationnelle. On ne peut pas y accéder par le seul raisonnement. Cependant, elle ne se situe pas en dessous du rationnel non plus. » On ne peut pas y accéder en se passant de la raison. Pourquoi? Parce qu'une foi mature implique la personne entière. L'intellect doit être mis à contribution autant que la volonté et les émotions. Les chrétiens, on n'est pas simplement chrétiens parce qu'on trouve qu'il y a là une bonne béquille pour vivre notre vie. Je crois que dans la foi chrétienne, il y a ce qui apporte le plus d'espérance, le plus de persévérance à travers les difficultés, les meilleures explications pour pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien, d'où vient le monde, pourquoi le mal existe, d'où vient notre sentiment, notre recherche de beauté, de paix, de justice. Puis c'est la chose qui répond le mieux à notre espérance aussi. L'espérance de la vie, la foi chrétienne qui est la vie éternelle avec Dieu. Mais il y a aussi des bonnes raisons pour croire dans le christianisme. Quelques bons points de départ, quelques livres, peut-être si vous vous posez des questions, ça vous intéresse un peu ou vous cherchez peut-être des références à donner à vos amis, je vais vous citer trois livres qui sont reconnus comme des très, très bonnes références. Le premier, c'est un grand classique qui s'appelle « Les fondements du christianisme » de C.S. Lewis, qui était probablement un des penseurs chrétiens les plus influents, surtout de la première moitié du 20e siècle. C'est l'écrivain des Chroniques de Narnia. C.S. Lewis, celui qui écrit les Chroniques de Narnia, était plus connu pour ses écrits en tant que théologien et philosophe chrétien. Le livre s'appelle « Les fondements du christianisme », en anglais « Mere Christianity ». Mere, c'est M-E-R-E. Un autre livre que certains d'entre vous avaient lu, je sais, c'est « Plus qu'un charpentier » de Josh McDowell. Eux autres, je ne les ai pas lus encore. C'est dans ma liste, ma longue liste de « à lire éventuellement ». Puis le prochain, lui, je l'ai lu, c'est « La raison est pour Dieu » de Tim Keller. Si vous avez besoin de réfléchir plus, moi, mon temps s'achève, donc je ne vais pas vous donner plus de matière à réfléchir à ce niveau-là, mais pour vous-même, si vous cherchez raffermir votre foi ou des outils pour donner à vos amis, ou si vous êtes vous-même en recherche, vous-même en questionnement par rapport à ce que la Bible dit, à ce que Jésus dit, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de croire en Dieu? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'être chrétien? Voilà certains outils. Alors, à la fin, pour conclure, Jean, qui a écrit cet évangile, ne l'a pas juste raconté pour écrire une belle histoire, pour qu'on termine à la fin, puis qu'on dise « Ah, wow, ça, c'était vraiment un bon bouquin. Ça, c'était un bon roman. Je vais le suggérer à des gens, puis je vais aller chercher un prochain bon bouquin à lire. » Jean, il dit au verset 31, à la fin de notre chapitre, il parle des choses qui ont été écrites dans son livre, les signes de Jésus, c'est-à-dire les miracles, ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean ne veut pas nous dire, on ne peut pas rester neutre en écoutant l'histoire de Jésus. Soit, selon cette promesse-là, on croit en Jésus et on obtient la foi, on obtient la vie en son nom, soit on rejette Jésus. Et comme il mentionnait un peu plus tôt, nos péchés ne sont toujours pas pardonnés tant qu'on ne s'en remet pas à lui. Évidemment, tout ça, c'est à condition que ce soit vrai. Et je vous encourage à aller plus loin dans cette recherche-là. Si c'est des questions que vous avez. Il y a aussi le fait que la foi, c'est pas non plus quelque chose d'exclusivement rationnel. Pour chacun des personnages qu'on a vus ici, ça leur a pris une preuve. Et Jésus leur a fait la grâce de leur apparaître physiquement à chacun d'entre eux. À Marie, aux disciples, à Thomas aussi. On voit que Jésus est apparu à d'autres personnes aussi. Dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de Jésus qui est apparu jusqu'à 500 personnes à la fois. Il dit, dans le fond, allez leur demander, il y a des témoins, des gens qui sont encore vivants, qui ont vu Jésus ressuscité, allez les voir. C'est ça, donc Jean, il nous appelle. Oui, c'est ça que je voulais dire. La foi n'est pas non plus quelque chose d'uniquement rationnel. C'est pas juste un ensemble de vérités ou d'énoncés factuels de croyances qu'on croit, puis ça fait de nous un chrétien. Le christianisme est fondé avant tout au niveau d'une relation. Une relation avec quelqu'un. Pas juste un set de vérités à croire, mais une relation avec Jésus. Alors je vous encourage, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de chercher à connaître ce Jésus-là, de mieux le connaître, de mieux en savoir sur lui, je vous encourage à lire les évangiles. Puis, de le faire aussi dans une attitude de prière. La révélation de Jésus se fait non pas simplement de façon rationnelle, mais aussi alors qu'il éveille notre cœur à la foi. Faites-le en priant. Jésus, je ne sais pas si tu existes, mais si oui, aide-moi à te trouver. Je t'encourage à lui adresser une prière qui ressemble à ça, à lire les évangiles dans une attitude de prière, puis chercher la face de Jésus. En conclusion, j'aimerais raconter une petite histoire. C'est un petit garçon, puis son père qui est en train... Son père conduisait. C'était une belle journée d'été, ou on va dire c'était une belle journée de printemps, puis là, il faisait assez chaud qu'on pouvait ouvrir les fenêtres. Ah, ça nous donne envie à bientôt. Donc, les fenêtres étaient baissées. On n'était pas à Montréal. À Montréal, on garde les fenêtres ouvertes, puis on met l'air climatisé. Mais donc, on était en campagne, donc on pouvait baisser les fenêtres. Ah, l'air, ça sentait bon, ça sentait les fleurs, les bourgeons dans les arbres. Et tout d'un coup, il y a une grosse abeille qui rentre dans l'auto. Ça vous est peut-être arrivé. Malheureusement, le garçon était mortellement allergique aux abeilles. Et il avait besoin d'une épipène. Donc, mortellement allergique aux abeilles. Et le garçon se jette de tous côtés pour essayer de s'enfuir de l'abeille. Il en a mortellement peur. Le papa réussit à étendre sa main, à ramasser l'abeille dans sa main et écrase l'abeille dans sa main. Puis là, il ouvre sa main. Oh, l'abeille n'est pas morte. Puis là, l'abeille se remet à bourdonner dans l'auto proche du garçon. Il se remet à avoir peur. Puis son père lui dit, non, c'est correct. Regarde dans ma main. L'abeille, elle m'a piqué. J'ai pris son dard. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'abeille. La résurrection de Jésus, c'est un peu comme ça. Jésus a déjà traversé la mort. Jésus est comme le Père qui a saisi la mort et qui en a subi la conséquence, qui l'a traversé avant nous, qui a pris le dard, qui a pris l'aiguillon de la mort. De sorte que si on se confie en lui, lorsque la mort va venir, et c'est une des rares certitudes de cette vie, que nous allons tous mourir, lorsque la mort va venir, on peut s'y approcher en faisant confiance en Jésus qui l'a déjà traversé, qui en est sorti victorieux de l'autre côté, qui a triomphé de la mort. Alors, Jésus qui a pris la condamnation à notre place, c'est ça, si on s'approche de la mort, peu importe les craintes qu'on peut avoir, en plaçant notre foi en Jésus, on peut avoir cette assurance, cet accompagnement de quelqu'un qu'on sait qui est déjà sorti de l'autre côté. Jésus qui a traversé la mort, il l'a fait comme nous allons tous le faire, puis qui en est sorti victorieux de l'autre côté, qui nous appelle à lui remettre notre vie pour pouvoir profiter de ce triomphe dans lequel il veut nous faire, qui nous appelle à partager. Prions. Seigneur, merci pour ta parole.